Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Éternel, merci pour ta parole qui nous rejoint ici et maintenant, là où nous en sommes, avec ce que nous sommes. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite maintenant à prendre le numéro 315, cantique 315. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 6. Je vous invite à vous lever. prenez place. Une fois n'est pas coutume, j'enchaîne directement avec le message que ce texte m'a inspiré. Chers frères et sœurs, dans la foi comme en humanité, pendant très longtemps, on les a appelés les 10 commandements ou le décalogue. Longtemps, ils ont orné l'intérieur de nombreux temples protestants. Ils ont trôné pendant près d'un siècle dans les liturgies de nos cultes. Et à la fin du XIXe siècle, les cultes commençaient par cette lecture en guise de salutation et d'accueil. Certains d'entre nous se souviennent sûrement que chaque culte dominical était ponctué de la lecture de ces 10 commandements. Cela s'appelait alors la lecture de la loi de Dieu, introduite par ces mots « Écoutons comment Dieu veut être servi ». Il y avait ensuite le déroulement de la liturgie, telle que nous la connaissons, ici, à l'oratoire du Louvre, avec la confession des péchés, qu'on appelle aussi la prière de repentance, et qui correspond chez nos frères orthodoxes et catholiques au Kyrie eleison, une phrase en grec qui se traduit par « Seigneur, prends pitié ». Et peut-être nous souvenons-nous encore de cette prière de Jean Calvin, dont je ne vous lirai que le début. « Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs. Nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes 5 commandements, attirant sur nous en conséquence la condamnation et la mort. Je vous renvoie à l'intégralité du texte de Jean Calvin sur le site de l'oratoire. Alors la lecture de la loi se terminait aussi par le résumé de ces commandements que nous appelons le sommaire de la loi. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. Et nous chantions encore une strophe du psaume 6. Seigneur qui vois la peine, où le péché me mène, cesse d'être irrité, apaise ta colère, ne sois pas si sévère que je l'ai mérité. Heureusement, il y avait la déclaration du pardon juste après, et nous chantions alors le cantique de louange et prière 512, Dieu Tout-Puissant dont la grâce m'accorde, et la justice et la miséricorde. Jusqu'à la fin, je veux chanter, Seigneur, à ton honneur. Purifiés, sanctifiés, nous pouvions dire alors notre confession de foi, autrement dit le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et enfin, nous pouvions écouter la lecture de la Bible. Cela a été notre façon de célébrer pendant des décennies, jusqu'en mai 68. Et là, mai 1968, branle-bas de combat. La loi de Dieu disparaît pendant un temps de nos liturgies. Tout le déroulement du culte est remis en question. Un renouveau liturgique est proposé. Mais si la lecture du décalogue disparaît, des paroles d'exhortation, que l'on appelle aussi paroles d'envoi, précédant la bénédiction, se mettent en place à la fin du culte. Et de nombreuses propositions de culte voient le jour. La liturgie est vraiment en chantier. Elle le restera jusqu'en 1997, date à laquelle la loi de Dieu retrouve progressivement sa place dans la liturgie avec une ouverture plus large. Depuis 1997, elle s'appelle la volonté de Dieu. Et depuis cette date, cette volonté de Dieu est proposée à deux endroits possibles, avant ou après la confession du péché. Le décalogue, tel que nous l'avons lu à l'instant dans le livre de l'Exode, est construit en deux parties. D'une part, la relation de l'homme à Dieu, et d'autre part, la relation de l'homme avec son prochain. Mais depuis les années 1990, comme je le disais, finalement, ce décalogue n'est plus le décalogue, les 10 commandements ne sont plus les 10 commandements, mais les 10 paroles. En résonance au mot hébreu qui est employé, parole étant la traduction littérale du mot hébreu dabar, la parole de Dieu. Et comme l'écrit Jean-Louis Schlegel dans la préface du livre de Marc-Alain Wachnin, intitulé justement « Les 10 commandements », je cite « Qui entend le mot « commandement » entend spontanément aujourd'hui « ordre donné et reçu », interdit, loi, morale, donc obéissance et désobéissance, autrement dit, quelque chose d'insupportable. On préfère laisser les commandements à l'ordre militaire. » Fin de citation. Alors, en appelant ces commandements les 10 paroles, on constate une évolution dans la mentalité de celles et ceux qui les écoutent. Et si nous sommes passés du commandement à la parole, il ne s'agit pas seulement d'un réajustement de traduction, mais bien d'une réinterprétation. Et nous sommes invités à comprendre ce que nous lisons. Et dans la traduction que je vous ai lue, il y a des verbes au futur et à l'impératif. Alors peut-être savez-vous qu'il y a deux versions du Décalogue dans le Premier Testament, celui que nous avons lu à l'instant dans le livre de l'Exode et l'autre dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, les versets 6 à 21. Les deux textes sont très semblables, ils peuvent pratiquement se superposer, sauf pour les paroles qui concernent le jour du repos, le Shabbat et le respect dû aux parents. Ces 10 paroles sont données à Moïse, écrites sur des tables de pierre. Le texte biblique parle aussi des tables du témoignage ou encore des tables de l'alliance. On relève essentiellement l'emploi du futur, non seulement en français mais aussi en hébreu, à la forme négative « tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère ». Et au milieu, il y a ces deux formes impératives à la forme positive « souviens-toi du jour du Shabbat, honore ton père et ta mère ». Il se situe à la charnière entre la relation avec Dieu et la relation avec les autres. Et peut-être l'avez-vous remarqué, contre toute attente, les 10 paroles ne commencent pas par « tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi », mais elles commencent par cette phrase « je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Et ce verbe « je suis » que l'on retrouve dans la formule « quand Dieu se présente à Moïse » et que l'on retrouve plus tard dans la bouche de Jésus, est un verbe au présent de l'indicatif, comme un postulat de base, une référence éternelle, un présent jamais relégué ni relégable dans le passé, jamais dépassé dans le futur. C'est ce présent éternel, selon la formule reprise beaucoup plus tard par l'apôtre Paul et qui concernera le Christ, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis Yahvé, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est le présent de celui qui parle. Et sont articulés autour de ce présent de tout temps, le passé avec la libération d'Égypte, le présent de l'alliance donnée au Sinaï et l'avenir orienté par le présent, orienté par celui qui est présent. Et il y a tout ce programme au futur, et la grammaire française reconnaît une valeur impérative au futur, mais de façon adoucie, pour tempérer ce que l'impératif pourrait avoir de brutal ou d'incisif. Le futur permet d'accorder un délai dans la réalisation de ce qui reste néanmoins un ordre. Mais le futur est là pour ménager du temps, pour celui qui reçoit cet ordre, si toutefois c'en est un. Et le délai nécessaire dont il a besoin, c'est le délai nécessaire dont il a besoin jusqu'à ce qu'il devienne capable de le respecter. Ce n'est pas le bon vouloir de l'homme, mais le désir de Dieu que l'homme se rende capable petit à petit d'observer les commandements, toutes ses paroles. Cet accomplissement est donc sans cesse différé pour l'être humain. Jusqu'à quand, me direz-vous, il n'y a pas de date butoir. Il y a aussi une autre manière de comprendre le futur. On peut le recevoir comme un avertissement, dans le sens de, par exemple, ne commence pas à faire ceci ou cela. Il y a dans le cœur du destinataire ou dans sa vie une pente naturelle, une tendance inévitable à laquelle il est invité à résister, à ne pas céder. Cela nous renvoie indirectement à cette phrase de la prière du Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation transformée depuis quelque temps en « ne nous laisse pas entrer en tentation », cette phrase dont la traduction pose régulièrement un problème de traduction, tout le temps. Avec toujours en arrière-fond cette idée de faire attention. À qui, à quoi faut-il faire attention ? À soi, d'une part, et à l'autre, d'autre part. Au fond, ces 10 paroles ne sont pas de l'ordre de la morale ou du devoir, mais elles concernent l'être. Ces 10 paroles ne nous sommes pas de faire, mais nous invitent à être, être plus, être meilleur, être pleinement humain, être avec l'autre, lui parler pour qu'il vive comme moi je vis, et qu'en retour, il m'offre aussi la vie. Faire attention à soi, c'est faire attention à l'autre, et c'est faire attention à Dieu, dans cet ordre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne t'oublie pas au passage. Faire attention, c'est prendre conscience. Et au fond, les 10 paroles ne nous disent rien d'autre que « aime ton autre, l'autre unique, l'autre séparé », traduit par Paul Ricoeur, « soi-même comme un autre », que nous avons décliné sous bien des formes dans notre groupe « Paroles d'amour » cette année. Mais est-ce que c'est suffisant pour préserver le destinataire de ces paroles ? Alors, heureusement, il y a ce présent qui ouvre ces 10 paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le futur du destinataire des 10 paroles ne dépend pas que de lui-même, mais il dépend de ce présent. Tu arriveras à respecter tout cela parce que je suis. Je suis au début, au milieu et à la fin de ton cheminement. Je suis, dans la tradition hébraïque, c'est le tétragramme, le nom de Dieu, l'Éternel. Et ce nom se décline différemment de génération en génération, marquant ainsi une présence mobile et néanmoins fidèle, indéfectible. C'est peut-être là que nous pouvons comprendre cette autre signification du futur. Parce qu'en hébreu, le futur se nomme inaccompli. C'est cet inaccompli qui sera la valeur de la promesse basée sur le ressort de la confiance. Celui qui est présent va lui-même rendre le destinataire capable de vivre selon les 10 paroles un jour ou l'autre. C'est un mouvement, c'est une progression. Avec ces 10 paroles, nous cheminons vers le meilleur de nous-mêmes. C'est un chemin de vie toujours en progrès. Et même si nous n'arrivions pas à vivre de ces 10 paroles, nous ne serons pas pour autant séparés de son amour toujours premier. C'est sans doute pour cela que la lecture de la volonté de Dieu a du mal à se contenter d'une place immuable dans nos liturgies, puisque ces 10 paroles sont synonymes de la vie et donc toujours en mouvement. Et au milieu de tout ce futur à interpréter, il y a, souvenons-nous, ces deux impératifs qui sonnent comme quelque chose à la fois d'intense et d'incontournable, le respect du Shabbat et l'honneur à rendre aux parents. Le destinataire est mis devant cela sans condition. Respecter Dieu en se souvenant de lui un jour par semaine. Respecter ses parents et se souvenir d'eux inlassablement. Dieu a parlé aux générations précédentes comme il continue de parler aux générations présentes. Et donc, le futur à venir, en un seul mot, ou à venir, a besoin à la fois du souvenir de la promesse et du commandement. Mais au fond, les trois se conjuguent ensemble sans confusion. Alors les 10 paroles peuvent se recevoir comme un don dans le présent de chaque jour. Je ne pouvais pas passer à côté du fait qu'en français, le présent est aussi synonyme de cadeau. Amen.